de Jakarta. Voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous?
Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Dewi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme du journal. Aujourd'hui, on commence par le titre « Le Parlement répond de la voix de l'Indonésie de RRI » pour encourager une participation accrue des électeurs à l'étranger. Le ministère de coordination Marves et IMI étudie les possibilités de créer une école de cours à Toba. Le vice-président a rappelé la neutralité des agents électoraux, pas seulement un slogan. Le ministre des Transports a déclaré que le port d'Abu Dhabi était intéressé par la gestion du terminal à conteneurs de Patimban. L'Espagne prête à reconnaître l'État de Palestine, même si l'Union européenne n'est pas d'accord. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. RRI Voice of Indonesia a organisé un dialogue sur les réponses parlementaires sur le thème « Augmenter la participation des électeurs étrangers » qui a été diffusé à Jakarta dimanche. Souleyman Yusuf, responsable de RRI Voice of Indonesia ou La Voix de l'Indonésie, a déclaré que le Parlement répond est un programme de dialogue qui fait partie du programme de Gerakan Cerdas Memilih RRI, dont le but est d'accroître l'information du public tant au pays qu'à l'étranger concernant la mise en œuvre des élections générales de 2024. Dans son discours, Souleyman Yusuf a souligné les problèmes potentiels qui pourraient survenir lors d'élections à l'étranger. L'un d'eux est le défi auquel est confronté le comité électoral à l'étranger à Hong Kong.
Yang kami temui saja, misalnya banyaknya atau besarnya jumlah
ce
warga negara Indonesia constaté, pemilih,
par exemple, c'est que le nombre de citoyens indonésiens qui ont voté était d'environ 164 000 à Hong Kong. Mais le bureau de vote n'avait qu'une seule place, à savoir au consulat général d'Indonésie à Hong Kong. Même si cela se propage à Macao, etc. Imaginez 100 000 personnes arrivant en un ou deux jours au consulat général d'Indonésie. C'est un spectacle extraordinaire. Il espère que le Parlement répond pour être l'un des efforts qui peuvent être déployés non seulement pour accroître la participation des électeurs à l'étranger, mais également pour surmonter un certain nombre de défis potentiels qui seront confrontés afin d'assurer un processus de vote fluide. Le dialogue « Le Parlement répond » a réuni des personnes ressources, la commissaire indonésienne du KPU Betty Epsilon Idrus, le conseil d'administration de l'Association pour les élections et la démocratie Titi Anggraini, le membre de la commission 11 DPR RI Eriko Sotarduga et le membre de la commission 1 DPR RI Christina Ariani. Le ministère de coordination des affaires maritimes et de l'investissement et l'association automobile indonésienne IMI
étudie la possibilité de créer une école de course H20 Racing dans la région de Lac Toba sous le nom de Centre de formation aquabike H20 Racing. Adjoint au tourisme et à la coordination économique du ministère créatif de la coordination Marves O2RM Manuhutu, en marge du championnat du monde aquabike 2023 au Lac Toba, a déclaré samedi que la création d'une école ou d'un centre de formation est la base de la formation et développer le potentiel de la jeune génération dans la région de Lac Toba, notamment pour les courses H20. Selon lui, cela a été fait par le gouvernement afin de soutenir le développement de la jeune génération indonésienne. Pendant ce temps, le vice-président général de IMI, Ananda Mikola, a déclaré que son parti était prêt à travailler ensemble pour développer le centre de formation aquabike H20 Racing. Ananda a ajouté que grâce au centre de formation aquabike H20 Racing, naîtraient les meilleurs participants qui seraient plus tard capables de concourir en tant qu'équipe Indonesia Racing. Cela peut soutenir l'image de marque du pays indonésien lors d'événements internationaux. Le vice-président indonésien Ma'ruf Amin a rappelé que la neutralité des responsables de l'organisation des élections de 2024 ne doit pas être seulement un slogan, mais doit être effectivement mise en œuvre car le public surveillera sa mise en œuvre. Lors de sa visite à Bratislava, Slovaquie, samedi, heure locale, il a transmis le message de neutralité de Ma'ruf envers les organisateurs des élections de 2024, y compris le comité électoral d'outre-mer. Ma'ruf a rappelé à toutes les ambassades indonésiennes dans le monde de bien organiser les élections et de maintenir une attitude de neutralité. Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré que le port d'Abu Dhabi était intéressé par la gestion du terminal à conteneurs du port de Patimban, région de Subang, Java de l'Ouest. Le ministre Budi Karya a effectué une visite de travail aux Émirats Arabes Unis samedi et a rencontré avec le PDG du port d'Abu Dhabi, Saif Al-Mazroui, pour discuter plus en détail de l'intérêt du grand gestionnaire de port du Moyen-Orient de gérer conjointement l'opérateur portuaire indonésien dans la gestion du terminal à conteneurs du port de Patimban. Le ministre Budi a déclaré que le port international de Patimban avait reçu une proposition d'offre de coopération du port d'Abu Dhabi. Au cours de la réunion, le ministre des Transports a déclaré que le port de Patimban est le premier port de chaîne d'approvisionnement en Indonésie intégré à la zone industrielle autour du port. Le premier ministre espagnol Pedro Sánchez a déclaré que Madrid était disposé à reconnaître unilatéralement l'État de Palestine, même si cela était contraire à l'opinion de l'Union européenne. Cité samedi à Antara à Jakarta, Pedro Sánchez a déclaré à l'époque était venu pour que la communauté internationale reconnaisse l'État de Palestine, en particulier l'Union européenne et ses États membres. Sánchez a déclaré qu'idéalement, la reconnaissance serait transmise en même temps, comme un certain nombre de pays membres emboîteraient le pas. Cependant, selon lui, si cela n'arrive pas, l'Espagne est prête à prendre sa propre décision. Il a également déclaré que la reconnaissance de l'État palestinien est sa priorité lors de son prochain mandat. Voilà le journal d'aujourd'hui. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « L'Indonésie salue la pause humanitaire en Palestine ». L'Indonésie salue l'accord de pause humanitaire temporaire à Gaza conclu entre le groupe palestinien Hamas et Israël. C'est ce qu'a transmis le ministère indonésien des Affaires étrangères via le réseau social X mercredi, surveillé depuis Jakarta. Le ministère indonésien des Affaires étrangères déclare que l'Indonésie a toujours souligné l'importance de mettre fin à la violence de manière durable avant d'ouvrir l'accès à une aide humanitaire généralisée à Gaza, y compris l'aide du gouvernement et du peuple indonésien. On espère que cet accord ouvrira la voie à une fin permanente du conflit et au début de discussions sérieuses en faveur d'une paix globale et juste. En outre, l'Indonésie a exprimé son appréciation pour les efforts de médiation initiés par le Qatar en coordination avec l'Égypte et les États-Unis. Pendant cette pause humanitaire, le gouvernement indonésien par le ministère indonésien des Affaires étrangères continue de surveiller l'état de 3 Indonésiens qui travaillent à l'hôpital indonésien de Gaza. Auparavant, le gouvernement qatari par le ministère qatari des Affaires étrangères à Doha a annoncé mercredi le succès des efforts de médiation conjoints menés avec la République arabe d'Égypte et les États-Unis entre Israël et le mouvement de la résistance islamique Hamas qui a abouti à un accord de pause humanitaire. Le délai de mise en œuvre commence un jour après son annonce et dure 4 jours et peut être prolongé. L'accord comprend la libération de 50 femmes et enfants civils otages actuellement détenus dans la bande de Gaza en échange de la libération d'un certain nombre de femmes et d'enfants palestiniens détenus dans les prisons israéliennes. Selon l'annonce, le montant renoncé sera augmenté lors de la prochaine phase de mise en œuvre de l'accord. En outre, a-t-on précisé, la pause humanitaire permettait également l'entrée de convois humanitaires et d'aide humanitaire en plus de grande quantité, y compris du carburant destiné aux besoins humanitaires. Le Qatar a affirmé son engagement en faveur des efforts diplomatiques en cours pour désamorcer les tensions, mettre fin aux effusions de sang et protéger les civils. Le Qatar a également exprimé sa gratitude pour les efforts déployés par la République arabe d'Égypte et les États-Unis pour parvenir à cet accord. Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 26 novembre. On commence par le 26 novembre 1979, le crash du vol PIA 740. Le vol 740 de Pakistan International Airlines, ou PIA, était un vol de pèlerinage du Hajj qui s'est écrasé après avoir décollé de l'ancien aéroport international de Jeddah le 26 novembre 1979. Les 156 passagers à bord du Boeing de Pakistan International Airlines sont morts. La cause de l'incendie de la cabine était inconnue. Cet accident est le troisième accident le plus meurtrier en Arabie Saoudite et le troisième au monde impliquant un Boeing 707. Le 26 novembre 2008, les attentats terroristes de Mumbai. Les attentats de Mumbai en 2008 étaient une série d'attaques terroristes coordonnées qui se sont produites simultanément dans plusieurs endroits autour de la ville de Mumbai, en Inde. L'attaque a eu lieu le 26 novembre 2008 et s'est poursuivie jusqu'au 29 novembre. Au moins 188 personnes, dont au moins 22 étrangères, ont été confirmées comme victimes, tandis qu'environ 370 personnes ont été blessées. Les auteurs ont procédé à une série de fusillades, d'explosions et de prises d'otages. Un groupe s'appelle Deccan Mujahideen a revendiqué la responsabilité dans un courriel envoyé à plusieurs médias. La suite, le 26 novembre 2021, l'OMS a identifié la variante Omicron de SARS-CoV-2. La variante Omicron est une variante de SARS-CoV-2, le coronavirus responsable de COVID-19. L'OMS l'a déclarée comme une variante préoccupante et l'a nommée du mot grec Omicron. Le 24 novembre 2021, le variant a été signalé pour la première fois à la OMS depuis l'Afrique du Sud. Le 26 novembre, le groupe consultatif technique de l'OMS sur l'évolution du virus SARS-CoV-2 a déclaré que le B.1.1.529 était une variante préoccupante et lui a donné la désignation Omicron. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
Kasihku sampai di sini, kisah kita.
Voilà la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sous la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Et voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée « L'Indonésie a l'opportunité d'ajouter des athlètes aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ». Les Jeux Olympiques de 2024 auront lieu à Paris en France du 26 juillet au 11 août. Actuellement, l'Indonésie a obtenu 5 billets des athlètes de tir à l'arc Arif Dwi Pangestu et Diananda Khairunisa, de l'athlète de gymnastique artistique Rifda Irfana Lutfi et des athlètes d'escalade Desak Maderita et Rahmad Adi Mulyono. Concernant la possibilité d'envoyer des athlètes supplémentaires, car le tour de qualification est toujours en cours, l'Indonésie a encore de nombreuses opportunités de qualifier des athlètes pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Outre le badminton, quatre autres sports ont la possibilité d'envoyer des athlètes pour apparaître dans le plus grand multi-événementiel du monde. Le président du Comité olympique indonésien, UKOI, Raja Sabta Oktohari, a déclaré lundi à Jakarta que ce nombre pourrait augmenter car le temps restant pour concourir pour les billets olympiques était encore dans 7 mois. Selon lui, il existe encore des opportunités dans le sport, haltérophilie, course cycliste, surf, tir à l'arc et escalade sportive. Même si le temps restant est assez long, cela ne veut pas dire qu'ils peuvent se détendre. Otto a appelé les autres fédérations sportives à être plus prudentes dans leur participation au tournoi à épreuve unique inscrit au calendrier de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris. Parce que la concurrence pour obtenir des billets deviendra également plus serrée avec le temps. Concernant la préparation des sports et des athlètes, KOI continue également de préparer diverses préparations de l'équipe indonésienne pour les Jeux Olympiques de Paris. L'un d'eux consiste à établir une communication intensive avec l'ambassade de France en Indonésie. Auparavant, l'équipe indonésienne avait envoyé 28 athlètes plus un athlète suppléant aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020 qui se sont tenus en juillet 2021. À cette époque, le contingent dirigé par Rosan Ruslani avait remporté une médaille d'or, une d'argent et 3 médailles de bronze. C'est tout mon Indonésie.
Thank you.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien. Chers auditeurs, le gâteau Kantong Semar, une collation typique de Pontianak originaire de l'intérieur et de la côte du Kalimantan de l'Ouest. On l'appelle Kantong Semar ou en français la Saraceni, car cet aliment typique de Pontianak est enveloppé dans la saraceni, une plante carnivore. Habituellement, ce gâteau Kantong Semar est un aliment obligatoire lors de certains événements, tels que les événements traditionnels, les mariages et l'Eid al-Fitr. La saraceni porte le nom latin Nepenthes et une plante appartenant à la famille monogénique de Nepenthaceae. Cette plante aux dizaines d'espèces est répandue sur les îles de Java, Sumatra, Sulawesi, Papouasie, Maluku et Kalimantan. La plante de Kantong Semar ou la saraceni, comme son nom, possède une grande poche élargie semblable à l'estomac de Semar, qui est l'un des personnages wayang javanais. La particularité de cette plante réside dans sa saraceni qui ressemble à un bouton floral en forme d'entonnoir. C'est à travers cet entonnoir que cette plante attrape les insectes et les transforme en nourriture. Pour préparer le gâteau Kantong Semar, au début, la grande saraceni brunâtre est lavée et brossée à l'intérieur, qui est généralement plein de saleté, d'insectes morts et de terre. Les bords de l'embouchure de la saraceni sont coupés de manière à former un sac net, même si la taille n'est pas la même. Ensuite, la saraceni nettoyée est utilisée comme moule à gâteau. Pour la garniture, on prépare du riz gluant trempé et lavé. Ensuite, le riz gluant est mélangé avec du lait de coco frais, du sucre, du sel et ajouté avec des haricots de riz ou du niébé lavé. Ensuite, la saraceni est remplie de riz gluant mélangé aux haricots de niébé et versé avec du lait de coco. Les saraceni remplis de mélange sont placés sur un cuiseur vapeur et cuits à la vapeur pendant plus de 2 heures car le riz gluant qui est mis est cru et met donc beaucoup de temps à mûrir. Après cela, le gâteau Kantong Semar est prêt à servir. Chers auditeurs, une fois fois cuit, ce gâteau canton sommaire est de couleur brunâtre et une fois refroidi, il peut être dégusté. Il a un goût doux et moelleux avec un goût sucré et salé. Il y a une délicieuse texture douce et un délicieux goût de niébé. Ce gâteau de canton sommaire convient particulièrement à consommer avec le café. Mais ces derniers temps, parce que pour les fabriquer, les gens doivent d'abord chercher les saracénies, peu de gens veulent les fabriquer. Habituellement, ce gâteau de canton sommaire est vendu pour environ 3000 à 5000 roupies. Chers auditeurs, si vous êtes à Kalimantan de l'Ouest, prenez le temps d'essayer ce gâteau canton sommaire. Grâce à son caractère unique, cet aliment n'est pas moins appétissant que les autres aliments.
Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu.
Chers auditeurs, vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde, en plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie. Voici l'Indonésie en couleur, dont le titre est « Gadis Kretek se classe parmi les 10 meilleures séries Netflix au monde ». La dernière série dramatique indonésienne originale de Netflix, « Gadis Kretek » ou « Cigarette Girl », a réussi à assurer sa position dans le top 10 mondial des séries mondiales de Netflix. Netflix, dans une déclaration écrite il y a quelques temps, a déclaré que la série de Camila Andini et Iva Isvansyah était classée 10e sur la liste mondiale de télévision non anglophone avec 1,6 million de vues en seulement une semaine pour la semaine se terminant le 12 novembre. Gadis Kretek s'est également classé dans le top 10 hebdomadaire dans 6 pays, parmi lesquels elle a conservé la première place pendant 2 semaines consécutives en Indonésie et a obtenu la 5e place en Malaisie la semaine dernière et la 3e cette semaine. Par ailleurs, Gadis Kretek a également connu du succès dans de nouveaux pays d'Amérique latine et d'Europe, Chili 7e, Roumanie 8e, Mexique 9e et Venezuela 9e. La série Gadis Kretek ou Cigarette Girl raconte Damour de Dacia, jouée par Dian Sastrowardoyo, passionnée par la concoction de la formule parfaite pour les cigarettes de tabac, connue sous le nom de Kretek, avec Suraja, jouée par Aryo Bayu. L'histoire de Gadis Kretek se déroule dans l'industrie indonésienne des cigarettes Kretek et dans les événements historiques des années 1960. Même si cette histoire se déroule dans l'industrie du Kretek, les valeurs évoquées dans cette série sont très étroitement liées à la vie du peuple indonésien. C'est une opportunité qui existe rarement et que nous voyons rarement des pièces d'époque dans notre industrie cinématographique, a déclaré Rusli. La série Gadis Kretek a été créée au 28e Festival international de films de Busan, en Corée du Sud, et diffusée exclusivement sur la plateforme de streaming Netflix le 2 novembre 2023.
Sepenuh hati untuk menjadi malaikat, menepikan perasaan, runtuhkan egoku, namun sayapku remuk bila ku tanya pada diriku, mengapa aku bertahan menerima keadaan yang tak baik saja, memaksakan segalanya. Sanggup sadar.
Chers auditeurs, voilà la chanson de pop indonésienne.
Et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Bonsoir les auditeurs de Voice of Indonesia. Cette fois, je parle d'une chanson de Doni Sibarani. Doni Sibarani était auparavant connu comme le chanteur du groupe Ada Band de 2002 à 2017. Après cela, il a choisi de poursuivre une carrière solo. Le 22 novembre 2023, il a sorti son dernier single en invitant une nouvelle musicienne nommée Aura. Le single s'intitule « Yang Terbaik Bagimu » qui a déjà été popularisé par le groupe Ada Band avec Gita Gutawa en 2004. Dans l'ensemble, la chanson « Yang Terbaik Bagimu » décrit la figure d'un père. Les paroles racontent des souvenirs d'enfance d'un enfant qui commence à grandir. Les souvenirs avec son père, qui lui a toujours donné beaucoup d'amour, sont très attachés. Novembre est un mois assez particulier, où l'on célèbre la fête des héros le 10 novembre et la fête des pères le 12 novembre. Ces deux événements ont une signification profonde, surtout pour ceux qui voient le rôle du père comme un héros dans leur vie. C'était également une considération pour la sortie de la chanson « Yang Terbaik Bagimu » en novembre. Les auditeurs, voici la version Yang Terbaik Bagimu de Doni Sibarani et Aura. Bonne écoute!
cinta sayangku untuknya. Ku terus berjanji takkan hilang nanti pintanya. Ayah dengarlah betapa sesungguhnya ku mencintaimu. Kan ku
Voice of Indonesia.
chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.